Trying to be cool, c'était le nouveau Phoenix sur CFM 17h37 au téléphone avec nous, Nicole Gellot.
Oui, Nicole Gellot qui est journaliste au sein du canard que je suis en train de feuilleter en ce moment même. Donc il est paru, l'âge de fer du mois de septembre, et il titre sur les aventurières du textile. Et à l'intérieur de ce magazine, il y a un entretien, justement, signé Nicole Gellot, un entretien avec Isabelle Stengers, ouais, voilà. Isabelle Stengers, qui est philosophe belge, et qui titre Il faut s'arrêter et réfléchir. Alors du coup, Nicole Gellot, si vous voulez bien, sur CFM Radio, là tout de suite, là maintenant, on s'arrête et on réfléchit.
Oui, en fait, donc elle est le dernier ouvrage qu'elle a écrit, en fait, parle de la nécessité, en fait, d'instaurer ce qu'elle appelle des slow sciences, hein, par opposition aux sciences rapides. En gros, en fait, elle est assez effrayée par, en fait, les recherches scientifiques qui défendent les OGM. Et en fait, donc elle lance un appel aux scientifiques en disant, mais c'est urgent, en fait, il faut un petit peu regarder les conséquences de ce qu'on est en train de faire sur la planète et penser au développement durable et penser au fait qu'on est en train d'épuiser les ressources et qu'on est en train d'absorber des pesticides, etc. Et du coup, en fait, elle en appelle même à agir de façon rapide. En se disant que plus tard les prochaines générations diront mais en fait vous saviez, vous n'avez rien fait. Donc c'est vrai que dans son livre elle se lance dans toute une remise en question de la science et des scientifiques en démontrant que les scientifiques en fait ils sont soumis aux lois du marché, ils sont soumis à certains impératifs d'écrire dans un certain sens pour certaines revues, donc ça oriente complètement la recherche. Et donc ce qu'elle propose en fait c'est que les scientifiques instaurent le débat au sein de la société avec les citoyens sur le mode des jurys citoyens, jurys populaires, conventions citoyennes. En disant que le scientifique, l'expert de toute façon il a toujours sa part d'ignorance et que si en fait on remettait la science au cœur de la cité et qu'on permettait aux citoyens, qui sont les personnes qui vont en fait bénéficier des recherches des scientifiques, à ces citoyens de poser des questions et d'interpeller les scientifiques. Expliquez-nous, est-ce que vous avez pensé à telle conséquence, à quoi ça va servir, est-ce qu'il n'y a pas de danger. En fait, ça permettrait d'apporter, c'est pas que les citoyens vont décider, mais ça apporterait un éclairage qui serait utile. Voilà, en fait, qu'il y a un gros... sa pensée, quoi, s'arrêter réfléchir, parce qu'en fait elle estime que les scientifiques refusent ces grandes questions, refusent de se poser ces questions qui sont dites non scientifiques et qui sont des questions de la société. Et en gros, elle dit il faut sauver la science, quoi.
Ouais. Et ça dépend aussi peut-être de qui finance les recherches, de qui finance à un moment le scientifique.
Il y a pratiquement plus d'argent public. Donc de plus en plus, les recherches scientifiques sont tributaires de des entreprises privées. Et donc elle dénonce aussi ce problème qui touche de plus en plus la science. C'est évident.
Et voilà, donc vous l'avez rencontré, vous avez eu un entretien?
Non, en fait, je l'avais sollicité par mail, et c'est vrai que par rapport à... Dans un premier temps, je pensais faire une interview, et puis quand j'ai pas eu de réponse, et que c'était au mois d'août, je me suis dit « bon, ben je vais écrire à partir de son livre, quoi ». Donc j'ai lu la totalité du livre, donc c'est vrai que ça demande plus de travail, ça prend plus de temps, et parfois on relit plusieurs fois une phrase, parce que les philosophes, c'est pas toujours limpide, et puis après, on s'habitue à leur langage, et quand on commence à comprendre, on trouve ça très riche, quoi, et très intéressant. Donc c'est plus de travail, mais en fait, non, j'ai pas eu la chance de la rencontrer.
Bon, bah, peut-être qu'elle lira votre article et que vous la rencontrerez par la suite.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, voilà, c'est à lire en page 8 du magazine L'Âge de Fer de septembre. Vous avez participé à d'autres enquêtes, à d'autres articles dans ce magazine, Nicole ?
En fait, donc, j'ai apporté ma contribution au dossier qu'on a fait, et le dossier, en fait, qui porte, en fait, sur le consommer local.
Ouais.
En fait, on a titré consommer local, s'habiller local, c'est possible. Donc dans le dossier du Monde, on s'est intéressé aux textiles et aux vêtements. Et en fait, à partir de deux sources, c'est-à-dire qu'on connaît en fait les effets néfastes et les ravages liés à la délocalisation des entreprises textiles. Donc ben voilà, l'exemple du Bangladesh n'est pas loin et encore frais dans nos mémoires. Et puis en fait, on s'est dit aussi, mais il y a de plus en plus une perte des savoir-faire. Et c'est pas du tout dans l'esprit cocorico, mais c'est en fait, il y a des quantités de savoir-faire qui petit à petit se perdent parce que les ateliers, les usines ferment. Donc dans le dossier, on propose en fait des exemples concrets parce que on se rend compte que il y a quand même des initiatives et notamment une entreprise qui fabrique un jean. Qui est pas plus cher qu'un jean de marque, il est à 89 euros, et en fait, il est fabriqué en France. Donc, le tissu, le coton pousse en Turquie, il est tissé en Italie, et il est cousu en France. Dans ce dossier, on donne aussi, en fait, on parle aussi d'une autre petite entreprise de couturières licenciées qui, à un moment donné, ont créé leur entreprise, et puis des gens qui ont créé un site, où ils donnent des quantités d'adresses de chaussures textiles fabriquées en France et selon une éthique, donc dans le respect de la personne et puis de l'environnement.
Voilà, donc ça fonctionne.
Pour apporter quelque part une contribution à ce dossier. Donc moi, en fait, j'ai interviewé là un des deux journalistes qui a écrit un livre sur la disparition de la dentelle de Calais. Et le livre, c'est « Qui a tué la dentelle de Calais ?». Donc c'est deux journalistes qui ont fait, eux, alors une enquête, et pour essayer de comprendre pourquoi la fabrication de la dentelle de Calais était réduite à presque rien. Et donc, ils parlent des délocalisations. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur ouvrage, ils montrent aussi comment, en fait, les patrons d'entreprises et même les syndicats, quelque part, sont responsables parce qu'ils ont laissé partir un savoir-faire, donc vers les pays d'Asie. Mais en fait, ils n'ont pas su, quand même, c'est pas la seule raison, ils n'ont pas su préserver leur production de dentelle et notamment la vendre comme un produit de luxe, et du coup, ils se sont fait dépasser par d'autres dentelles qui étaient moins luxueuses, mais qui, en fait, se sont vendues moins chères, ont été fabriquées dans des conditions plus faciles, plus rentables, etc.
Et il parle d'orgueil, hein, de la dentelle, des dentelliers de Calais.
Oui. Alors, c'est vrai que ils expliquent, en fait, cet orgueil, c'est notamment parce qu'un ingénieur allemand, après la Seconde Guerre mondiale, avait créé un métier à tisser, qui faisait une sorte de tissu ajouré. Alors, bien sûr, c'était pas abouti, c'était pas aussi joli que la dentelle de Calais, qui est assez prestigieuse. Mais donc, ils expliquent que quand cet ingénieur allemand est venu trouver, en fait, les dentelliers de Calais, pour leur proposer en fait une collaboration, travailler ensemble, en fait, ils ont été assez méprisants, donc assez orgueilleux. Et finalement, cet ingénieur allemand, il a perfectionné son métier à tisser et il a fait fureur sur le marché. Et lui, il est devenu prospère. Hein, et cette dentelle, elle a supplanté la dentelle traditionnelle, quoi, de Calais, et qui il reste six fabricants, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'ils expliquent quand ils parlent de l'orgueil, ouais.
Voilà, ben c'est à lire. Alors à la fois donc dans le livre, hein, qui a tué la dentelle de Calais, de Thierry Butzbach et Butzbach, pardon.
Morgan Ryan.
Voilà. Et puis les propos recueillis par vos soins, Nicole Gélot, en page 4 du dossier. Merci d'avoir été avec nous pour parler de l'âge de fer. Ça coûte 1 euro, l'âge de fer. C'est une SCOP, hein.
Oui, c'est produit par une SCOP qui a 6 salariés. Voilà. Ouais. Voilà, et le journal, il est vendu sur abonnement, et puis on peut le trouver dans certains magasins bio.
Voilà, les épiceries bio, tout ça.
Ouais, certains cinémas. Voilà.
Et le mieux, c'est quand même toujours de s'abonner, comme ça, ça donne une meilleure visibilité, évidemment, à ceux qui le fabriquent.
Oui, c'est sûr.
Merci d'avoir été avec nous, Nicole Gélot.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à Culture, la vie des pays.